d'information que vous pouvez trouver, enfin, l'historique des épisodes, puisque c'est le quatrième épisode, sur philippecampos.com ou sur le site horizonecho.fr, mais vous y avez accès également sur différentes plateformes d'écoute de podcasts comme Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, Audible. Il y en a un nombre assez important. Donc ça donne une certaine visibilité à ces échanges. Alors, bon, le dernier épisode, il date du mois de décembre. J'avais fait les trois premiers en novembre et décembre, donc ça fait quand même quelques mois. J'aurais aimé les faire de manière plus régulière, mais effectivement, une charge de travail, des occupations personnelles font que... Voilà, c'est pas mon métier, je suis pas podcasteur, c'est des informations sur d'actualité économique et, comme son nom l'indique, l'innovation. Les trois autres épisodes, c'était sur l'intelligence artificielle, les startups, les redressements judiciaires, voilà. Et là, on va parler plus particulièrement sur tout ce qui concerne les critères ESG, c'est-à-dire sur tout ce qui est les critères environnementaux, sociaux et gouvernance, et l'impact que cela peut avoir sur l'évaluation d'entreprise, parce que donc j'ai une société de formation, avec des formations en ligne notamment, et j'ai des participants, des étudiants, qui me posent la question: quel est l'impact de ces critères sur l'évaluation d'entreprise? Est-ce que ça peut avoir des impacts déjà, et de quelle façon? Alors, bien entendu, ça peut avoir des impacts directs et indirects, mais déjà, on va dire quelques mots sur ce sujet-là, parce que ça va se renforcer dans les années qui viennent, l'impact. Et je vais vous dire pourquoi, et je vais vous dire aussi pourquoi peut-être que l'Union européenne, alors peut-être qu'elle est dans le droit chemin, mais pour l'environnement, c'est positif. Par contre, sur le plan économique, bien sûr, beaucoup de gens vont dire, dans le principe, l'économie durable, c'est que du positif. Maintenant, l'économie des 10-20 prochaines années, c'est moins évident. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a un exemple. L'exemple des États-Unis. Alors, c'est quoi les critères ESG? Et pourquoi ça va se renforcer? Donc, les critères ESG, je vous mettrai quelques liens dans, justement, les fiches du podcast. Alors, ils ne sont pas partout accessibles, mais vous pourrez le trouver soit sur mon blog philippecampos.com, puisque je fais aussi d'ailleurs un article, soit dans le site Horizon Echo, où il y a des liens qui sont disponibles, parce que j'ai vu que sur certaines plateformes, alors j'ai pas pu toutes les vérifier, ils ne mettent pas forcément le détail du podcast, donc vous n'aurez pas forcément toute l'information. Mais en tout cas, déjà, c'est quoi? Alors, les critères ESG, il y a trois, parce que c'est un acronyme, hein, le reporting extra-financier des données ESG. Donc c'est ESG, c'est le même acronyme en langage anglo-saxon, puisque c'est avec une orthographe différente, hein, parce que c'est pas les mêmes mots, mais ça a les mêmes débuts de lettres, environnementaux, sociaux et gouvernance. Environnementaux, bah, c'est directement lié au changement climatique, au réchauffement global de la planète, le dérèglement que l'on voit. D'ailleurs, il suffit de regarder la météo en France, hein. Ça a beaucoup changé. Quand j'étais petit, la météo était complètement différente, et j'ai vu depuis ces 10 dernières années, ça a complètement changé. Enfin, je trouve, hein, et puis c'est confirmé de toute façon, hein, les températures globales montent en France et ailleurs les effets sont encore plus importants. Voilà, c'est normal de s'en préoccuper. Tout ce qui concerne la biodiversité, l'utilisation des ressources, hein, le renouvellement des ressources, donc c'est relativement large. Les facteurs sociaux, donc ça va être les tout ce qui concerne les droits de l'homme, les conditions de travail, l'égalité des chances, les libertés fondamentales dans l'entreprise. D'une manière plus restreinte, on parlera des ressources humaines, les facteurs de gouvernance, donc le rôle des administrations, les activités de lobbying, tout ce qui concerne la rémunération des dirigeants, hein, ça peut faire polémique, en particulier sur des sociétés cotées où des dirigeants vont se payer des millions et des millions d'euros, des relations avec des partenaires commerciaux, voilà. Donc toute cette série d'informations, la particularité, c'est que progressivement, de nombreuses entreprises vont devoir respecter ces critères extra-financiers et en plus qui vont devoir être certifiées par un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant accrédité. Alors, des sociétés cotées d'une certaine taille avaient déjà cette obligation de publier des données, des reportings extra-financiers, mais c'était quand même sur des entités déjà d'une certaine taille. Aujourd'hui, ça va être étendu un nombre significatif de sociétés, y compris des sociétés non cotées. Donc là, on voit que finalement, en Europe, parce que là je parle de l'Union européenne, les obligations vont être très importantes et un peu sous la contrainte, de manière progressive, mais enfin bon, en réalité ça passe très vite, mais de manière contrainte. Donc c'est-à-dire le premier reporting va intervenir dès 2025 sur les données 2024, donc de l'année en cours, hein, à la date d'enregistrement de ce podcast, pour des entreprises qui ont plus de, enfin, deux des trois critères suivants, plus de 500 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus de 25 millions de chiffre d'affaires. À partir de 2026, pour les données de 2025, ça va être étendu sur les entreprises de plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 25 millions de total bilan. Et à partir de 2027, pour toutes les PME cotées en bourse, sauf les micro-entreprises de moins de 10 salariés et des entreprises qui ne dépassent pas 900 000 euros de chiffre d'affaires, mais bon, quand c'est des sociétés cotées, il y en a peu qui vont finalement ne pas être concernées. Et d'ailleurs, sur des... Ce qu'on parlait, ça va être certifié par des organismes indépendants, des entités ou des commissaires aux comptes. Eh bien, il y a de plus en plus de cabinets qui mettent en évidence sur leur site internet une offre sur cette problématique d'audit ESG. Et il y a aujourd'hui des formations spécialisées qui se développent aussi sur ce thème-là. Le point qui est important, c'est de voir que finalement, ce passage se fait un peu sous la contrainte. Hein, donc, ces obligations d'audit. Et c'est une réglementation stricte, structurée. Et pour les entreprises qui ne vont pas respecter ces critères en Europe, ça peut être assez lourd. C'est-à-dire des amendes et des pénalités financières, hein, qui peuvent être significatives. Dès lors que, par exemple, il y a une non-conformité aux limites d'émissions de carbone, des sanctions administratives, donc avec des restrictions d'activité, par exemple, ou des ordres de cessation d'activité, donc sur tous ces critères, hein, pas uniquement de gouvernance, l'environnement, le social et la gouvernance, l'exclusion des marchés publics, hein, donc c'est-à-dire que si vous travailler pour l'État, vous pouvez être exclu de cela. Des impacts liés à la réputation, c'est-à-dire que les entreprises vont être... Alors là, c'est un peu plus indirect, tout ce qui concerne la confiance des consommateurs et des investisseurs. Hein, une entreprise qui maltraite ses salariés, qui maltraite ses fournisseurs, et maltraite finalement aussi le climat, bon... Eh bien, elle aura peut-être plus de difficultés à vendre. Hein? Bon, ça c'est déjà vrai, mais là, comme ça va être audité, bien les discours, on va dire un peu marketing, ça va être, voilà, ce sera moins évident pour elle de le faire. Bon, après il y a les réalités du terrain, parce que même ceux qui vont auditer ces informations-là, ils n'auront pas forcément accès à toutes les informations. Il y a peut-être dans un groupe où il y a 10 000 salariés, des cas particuliers. Donc, bon. Donc ça a clairement un impact sur les évaluations. C'est-à-dire qu'une entreprise qui sera mal notée, hein, dont l'audit ESG se passera mal, parce qu'elle ne respecte pas les critères 1 ou 3 des critères mentionnés, bon, bah, ce sera visible de tous, donc l'entreprise sera sanctionnée, hein, par les marchés. Donc il y a là les impacts directs, hein, si vous avez une pénalité, bah, vous devez la mettre, ça viendra en moins de votre cash flow, ça viendra en moins de votre valeur d'entreprise, hein. Donc du coup, oui, ça a des impacts, les sanctions administratives, ça a des impacts, si vous fermez, vous réduisez votre voilure, vous avez une interdiction de certaines activités, oui, clairement. D'ailleurs, ça existe déjà, hein, quand vous avez une entreprise voilà, qui est polluée, la marque est appelée au boycott, etc., ça peut avoir des effets sur votre chiffre d'affaires, votre marge, et donc là, il y a un impact direct sur la valeur d'entreprise. Donc, direct et indirect. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de confronter ça avec ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y aura pas ce genre d'obligation. Bien sûr, ces critères ESG existent, bien sûr, il faudra les prendre en considération, mais les entreprises, on va dire, sont incitées, et les moyens de régulation sont beaucoup moins contraignants. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de sanctions, mais les sanctions seront parfois engagés, mais ce qui existe déjà, hein, c'est pas nouveau, et c'est beaucoup plus présent aux États-Unis qu'en France ou en Europe en général, c'est des groupes d'actionnaires qui vont attaquer le management pour non-respect des engagements ESG. Mais peut-être que leur engagement ESG va être moins fort qu'en Europe aussi. Et il n'y aura pas forcément d'audit non plus. Donc, l'information ne sera pas forcément révélée. Elle sera, dans les faits, révélée quand on voit qu'il y a un impact indirect, c'est-à-dire, oui, ça peut être des dirigeants qui font un peu n'importe quoi. Et effectivement, ça finit par se voir sur le cash flow de l'entreprise. Et donc là, il y a un impact, mais ça passe par l'ESG. Des sanctions aussi de la SEC, c'est-à-dire l'organisme qui régule les marchés financiers, si il y a un non-respect des règles de divulgation des ESG, c'est-à-dire des informations sont dissimulées alors qu'elles auraient dû être diffusées. Mais là, ça va concerner plus la gouvernance, oui, ça, parce que ça touche plus au portefeuille direct, visible, alors que sur l'environnement, bon, on est moins préoccupé. Difficulté de financement, si vous ne respectez pas les critères, les normes, bah, peut-être que ça va être plus compliqué pour avoir des fonds. Et puis, comme en Europe, il y a des conséquences liées à la réputation, comme vous disiez, hein, une entreprise qui maltraite ses salariés, qui maltraite ses fournisseurs, à un moment donné, si ça devient massif, il y aura des conséquences. Donc oui, ça va se traduire dans vos bénéfices, et donc dans vos multiples que vous allez appliquer pour obtenir la valeur d'entreprise, et puis vous pouvez avoir aussi des sanctions, bon, mais ça va être moins fort qu'en Europe. Et d'ailleurs, je me fais aussi... il y a quelques semaines, je suis parti aux États-Unis et dans un palais omnisport, dehors, on va dire qu'il faisait peut-être 25 degrés, dans la salle, il devait faire 15-18 degrés. Et je me suis dit, pour mettre pendant plusieurs heures la clim pour faire baisser ce niveau de température si froid, c'est-à-dire que si vous étiez en t-shirt, vous, dehors, ça, vous aviez chaud, à l'intérieur de la salle, qui pouvait contenir peut-être 25 000 spectateurs, ben vous aviez froid. Hein? Malgré le fait que, voilà, on pouvait bouger, etc., c'était glacé. Eh bien, là, tout ce qui concerne l'environnement, c'était zéro, hein. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas, en tout cas en France, on ne le voit pas. Ça montre qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup moins sensibles, hein. Les SUV aux États-Unis, bien sûr, il y a le développement des véhicules électriques, mais les SUV, ça marche du feu de Dieu aussi. Ça pollue la planète. Vous voyez, le niveau de préoccupation est beaucoup moins fort. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à un point, quand vous voyez Total. Donc, il y a quand même un certain nombre, on a parlé dans la presse, Total, sur l'énergie, indirectement, ça contribue à la pollution de la planète, hein, puisque c'est l'émission de CO2, quand vous regardez les compagnies pétrolières. On a entendu, justement, il y a quelque temps, comme vous le disiez, Total veut se coter, en tout cas en place principale, aux États-Unis. Bon, bah, pourquoi d'après vous? Parce que c'est une conséquence, à mon sens, une des conséquences, peut-être pas la seule, mais de ces critères ESG, donc, qui sont faits sous la contrainte, et qui, finalement, les marchés sont beaucoup plus sensibles en Europe, en France, là, au cas particulier, à ces critères qu'aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, hein, mais ça dépend dans quelle mesure. Et puis, ils vont peut-être être plus sensibles à tout ce qui est gouvernance des... Voilà. Donc, on maltraite des salariés, on maltraite le tissu local d'entreprises américaines, etc. Ils sont plus sensibles que le réchauffement climatique. Je dis pas c'est global, mais il y a une sensibilité qui est différente. Et si vous regardez des cotations, j'ai regardé les principales sociétés en termes de capitalisation boursière qui sont cotées sur différentes places de marché, les niveaux de multiples. Vous prenez Saudi Arabian Oil, on est à un multiple de 8,49 d'EBIT. ExxonMobil, 9 fois l'EBIT. Chevron Corporation, 10 fois l'EBIT. PetroChina Company, 7,52. Shell PLC, 7,74. À la date où je fais le podcast, Total Energy, 6,49. Conoco Phillips, 9,98. Par rapport aux autres grands acteurs, bon, après, il y a différents niveaux. Total est un peu en retrait. Bon, après, il y a d'autres acteurs aussi qui sont faibles, et c'est pas les seuls facteurs explicatifs. Mais probablement que les actionnaires, certains actionnaires plutôt, de Total, et j'ai vu a priori que les actionnaires américains représentent à peu près 40%, ils se sont dit, vaut mieux être coté aux États-Unis parce qu'on sera mieux valorisé. Bon, ça, on n'en est pas certain. L'autre point de réflexion que je voulais vous dire, c'est, on voit que, si vous voulez, dans les pays les plus pollueurs, bien sûr, les États-Unis, ça en fait partie. Vous avez le premier, c'est la Chine. Donc ça, c'est des informations que j'ai d'un site qui s'appelle Equateur, avec un K, W-A-T-E-U-R, avec 11,4 milliards de tonnes de CO2 par an. Les États-Unis, quand même loin derrière, 5 milliards de tonnes, l'Inde, 2,7 milliards de tonnes, la Russie, 1,7 milliard de tonnes, le Japon, 1 milliard de tonnes, l'Iran, 749 millions de tonnes, l'Allemagne, 675 millions de tonnes, voilà. Et après, c'est toutes des entreprises, aucune est dans, mis à part l'Allemagne, les 15 premiers ne sont pas l'Union européenne. Maintenant, l'Allemagne est très industrielle, donc c'est indirectement, c'est nécessaire. Après, si on ramène ça aussi par rapport à la population, on n'est plus dans ce classement-là. Hein, ça a changé. Bon, les États-Unis restent très gros pollueurs hein, par rapport à la population, mais il y a des pays qui sont encore plus pollueurs. Bon, après, par exemple, l'Arabie Saoudite. Hein. Bon, c'est normal puisque c'est très centré sur le pétrole. Mais si vous voulez, la Chine, par rapport à la population, elle est quand même beaucoup moins que les États-Unis. Et d'ailleurs, j'ai lu un autre article alors d'une revue financière anglo-saxonne où, en Asie, notamment en Chine, on s'oriente vers une législation qui va plus se conformer à ce qui se pratique en Union européenne. Après, il faut voir dans le détail, hein, mais moi, j'ai plutôt regardé États-Unis versus Europe. Donc, bon. Et l'autre point aussi d'attention, c'est que aujourd'hui, depuis un peu plus de 10 ans, les États-Unis se sont développés de manière forte, c'est-à-dire qu'avant, on était à peu près au même niveau de PIB. L'Union européenne versus les États-Unis, l'Union européenne était à peu près du même niveau. Bon, après, l'Union européenne est plus, si vous voulez, il y a une courbe, je mettrai dans le lien des éléments du podcast, de manière continue, depuis les années 60, il y a une croissance. Des fois, sur 2-3 années, ça se stabilise, notamment en 2008, mais ça rebondit aussi sec. Hein, avec le Covid aussi, ça a un petit peu de mieux, et hop, ça rebondit aussi sec. L'Union européenne est beaucoup plus marquée par les crises. C'est-à-dire, quand il y a une crise, ça dure beaucoup plus longtemps. Hein. Et aujourd'hui, depuis 2010, les États-Unis, donc après la crise de 2008, ont pris un... Voilà, il y a un effet complètement différent. Je sais que, par exemple, en 2006, j'ai passé quelque temps aux États-Unis. Enfin, on va dire que la conversion euro-USD était quand même très en faveur des Européens. Hein, c'est-à-dire que là-bas, je crois que c'était, il y avait 60% de différence. Donc, on avait un bon pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le PIB des États-Unis a pris, alors qu'il était à peu près équivalent en 2010, progressé de manière très sensible. Il y a un graphique, bon, je ne peux pas vous le montrer, mais vous pourrez le visualiser dans les liens. Il y a un gap. Hein. C'est-à-dire que si je prends 2010, 2011, on avait le PIB des États-Unis était de 15,6 trillions de dollars en 2011. Celui de l'Europe, 15,77. Donc il était même meilleur en 2011. Et c'est un pic parce qu'en 2010, c'était pas comme ça, mais en tout cas, à partir, on va dire, après 2010, on voit clairement que l'Union européenne s'est dégradée, même s'il a remonté un petit peu. Si vous regardez au 2022, on est à 16,75 trillions, on s'y perd, de dollars. Les États-Unis, 25,44 trillions. Hein. Et ça s'accentue. Là, c'est des données à fin 2022. 2023, ça doit continuer, ça va être encore pire. Donc, il y a un gap, donc une différence qui s'observe. C'est-à-dire que l'Union européenne, clairement, est en décrochage par rapport aux États-Unis. Je pense que c'est aussi parce que les États-Unis sont beaucoup moins soucieux de la planète. Bien sûr, ils montrent en apparence, et bon, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais quand même, oui, l'Union européenne est précurseur, mais il va falloir payer le prix. Le pari, c'est que sur le long terme, on sera gagnant, l'Union européenne, et sur le court terme, peut-être moyen terme, c'est les États-Unis qui sont gagnants sur ça. Moi, je ne suis pas convaincu que... Oui, c'est meilleur pour la planète, mais je ne suis pas convaincu que sur le très long terme, l'Union européenne soit gagnant. Alors, parce que de toute façon, les États-Unis, s'ils polluent, si la Chine pollue, hein, et encore par habitant, c'est plus les États-Unis, ça pollue le monde. Donc, l'Union européenne n'est pas hermétique. C'est bien, mais il faut accepter que, économiquement, ça va nous coûter très cher. Voilà. Et donc, sur l'évaluation, l'impact de ces critères-là sera beaucoup plus fort en Europe qu'aux États-Unis. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Je vous ai dit, effectivement, aux États-Unis, l'impact sera directement lié plutôt à des circonstances liées à l'organisation, des rémunérations, les troubles sociaux, etc., mais beaucoup moins sur les sujets d'environnement. Alors après, je pense aussi que, justement, puisque en Europe, c'est fait sous la contrainte, finalement, c'est ceux qui ne l'appliqueront pas qui seront dégradés. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne va pas augmenter les niveaux de valorisation, ça va plus dégrader ceux qui sont les mauvais élèves. Alors qu'auparavant, comme ça constitue l'exception, eh bien, finalement, là-dessus, ça se jouait un peu de choses. Là, aujourd'hui, enfin, on va dire qu'un bon élève avait peut-être un bonus, mais aujourd'hui, c'est plus le mauvais élève qui aura un malus. Hein, voilà. Donc, voilà. Mais bon, après, c'est au cas par cas. Et de toute façon, en termes de valorisation, comme je vous l'ai dit, c'est les résultats qui vont être déterminants. Hein, les bénéfices. Si une entreprise est très bonne élève, mais qu'elle perd de l'argent, tôt ou tard, ça va dans le mur. Et bon, et puis l'autre point aussi, comme je le disais, il y a des critères qui vont être très difficiles à apprécier. Hein. Alors bien sûr, pour des entreprises pétrolières, on va le voir directement, mais certaines entreprises, quand des salariés se font harceler, si l'information n'est pas remontée, personne ne pourra le voir. Vous pourrez le voir quand il y aura un scandale. Mais là, ce sera trop tard. Quand des fournisseurs sont mal payés, bon, il y a des entreprises qui vont faire tarder, vont faire refaire les factures. Voilà. Donc, c'est comme, j'ai l'exemple d'une entreprise de coursiers. Ils ont annoncé, auquel je fais appel, maintenant c'est beaucoup moins courant, parce que maintenant, ça c'était avant le Covid, maintenant il y a beaucoup d'échanges électroniques, mais ça existe toujours, mais moins qu'avant. Une entreprise de coursiers, donc elle avait communiqué sur le fait qu'elle s'engageait justement dans ses critères ESG, il y a déjà pas mal d'années, avec toute une flotte de scooters, mais voilà, qui fonctionnait à l'électricité, etc. Et donc, voilà, et puis elle s'engageait. Et bon, quand je regardais par la fenêtre, j'avais toujours, alors qu'elle disait qu'elle ne faisait plus appel à des scooters à essence, eh bien, j'observais que c'était toujours des scooters à essence. Donc, vous voyez, il y a la communication, le marketing. Alors, peut-être que sur une bonne partie de la flotte, mais peut-être que le reste, elle faisait appel à des sous-traitants, vous voyez. Et les critères, comme ils ne sont pas vérifiés maintenant, si l'entreprise remplit les critères de taille, ce sera vérifié par un commissaire aux comptes. Mais bon, le commissaire aux comptes, il ne va pas aller sur chaque course, etc. Enfin, c'est pour dire, c'est comme il y a des fonds qui se sont développés, des fonds impact, déjà il y a plusieurs années, qui, finalement, ils investissent si l'entreprise respecte des critères extra-financiers. Notamment critères ESG. Même à l'époque, on parlait pas forcément. Enfin, on parlait d'entreprises responsables. Eh bien, certaines entreprises, en fait, c'était du marketing. Et les critères, finalement, d'appréciation, c'était sur la base d'une simple déclaration. Et c'est pour ça que dire, finalement, parce que je vois venir certains qui pourraient dire ah bah oui, ben, pour les entreprises qui sont respectueuses d'environnement, etc., on applique des primes. En termes de valorisation, bah c'est un peu prendre des risques, un peu prendre le risque de surévaluer ses actions. Enfin, en tout cas, globalement, il faut voir au cas par cas. Voilà, c'était un petit topo sur cette problématique intéressante qu'un vaste sujet. J'ai un peu dégrossi le sujet pour ceux qui se posaient les questions. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast. J'espère que ce ne sera pas dans 6 mois. J'espère en tout cas vous retrouver sur un prochain podcast. Et je vous dis à bientôt.